Bonsoir à tous, bienvenue. Merci d'être venus si nombreux. On va vous présenter ce soir un film réalisé par Gwen Le Guil, qui est ici à côté de moi, et qui va d'abord se présenter, vous présenter un peu le travail qu'il a fait, et puis après on pourra en parler après la diffusion, si vous voulez bien.
Merci. Bonsoir. Donc, je suis journaliste et je m'intéresse à la Birmanie depuis une vingtaine d'années. J'ai couvert un certain nombre de conflits ethniques, notamment entre le pouvoir central et des petites guérillas périphériques au début des années 2000. Et j'ai vraiment commencé à m'intéresser aux Rohingyas, à la situation des Rohingyas en 2012, au moment des premières flambées de violence contre eux. J'ai fait un premier reportage pour Arte en 2014-2015. Et puis depuis septembre 2017 et l'exode massif que vous verrez, que vous découvrirez dans le documentaire, j'y suis allé plusieurs fois pour documenter ce qui s'y passait. Et puis ce film, c'était une tentative c'était le but de ce film, c'était d'expliquer, de raconter dans quelle mesure les violences à l'encontre de la minorité Rohingya n'étaient pas une énième flambée, comme on avait pu le voir par le passé, mais était quelque chose de très organisé, de pensé, par l'État birman, au plus haut niveau.
Voilà. On vous laisse voir le film et on en parle après. Merci beaucoup à tous.
Eh bien, donc le principe, c'est que les questions sont ouvertes, donc il y a des micros qui circulent dans la salle et il vous suffit de lever la main. S'il y a des gens qui veulent poser des questions, Gwen est là pour y répondre. Je vais me permettre de lui en poser une ou deux avant que vous commenciez pour que les choses soient un peu claires sur comment tu as travaillé. On se tutoie, je ne vais pas faire semblant de le vouvoyer, vous m'excuserez pour ça. La première question que je voudrais te poser, que tu nous expliques, c'est: dans quelles circonstances tu as pu travailler sur place? Il y a deux endroits principaux où tu as travaillé. Tout d'abord, les camps de réfugiés au Bangladesh, et puis également en Birmanie, dans l'état de l'Arakan, là où ont lieu les massacres. Dans quelles conditions tu as pu travailler?
Alors pour ce qui concerne le Bangladesh, les conditions étaient difficiles, évidemment, puisque c'était surtout au départ totalement désorganisé. Mais j'ai eu, pendant les deux ans qui viennent de passer, toute liberté de travailler. Bien que la situation se soit tendue, notamment pour des raisons de sécurité, c'est devenu de plus en plus difficile ces derniers mois de travailler dans les camps autour de Koutoupalong. C'est évidemment très différent côté birman. Je n'ai pas eu le choix, à part ce qu'on a vu dans le film, les séquences, les images qui datent de 2014-2015, quand on aperçoit donc les camps, les premiers camps du sud de la région. Et quand on voit aussi, quand je suis le moine Uviratu en campagne électorale, ce que j'ai fait en 2014-2015, c'est devenu beaucoup plus difficile aujourd'hui de se rendre en Arakan, même quasiment impossible. Donc je n'ai pas eu le choix, j'ai dû accompagner ce que le gouvernement a organisé ces deux dernières années une dizaine de reprises, c'est-à-dire ce qu'ils appellent un press tour, un voyage organisé pour des journalistes étrangers, essentiellement des journalistes chinois et des journalistes japonais, qui sont les deux pays principaux soutiens du régime aujourd'hui, mais aussi quelques journalistes occidentaux, et j'ai eu la chance de pouvoir y participer. Donc j'ai dû me mettre un petit peu dans les mains des officiels birmans pour pouvoir avoir accès à la région de l'Arakan, à l'état d'Arakan, et notamment à quelques villages qui sont des villages symboles, des villages martyrs qu'on voit dans le film.
Tu peux nous expliquer pourquoi, à ton avis, les autorités birmanes organisent ces presse-tours? C'est assez flagrant et ça prouve des choses, on va dire, de leur point de vue qui sont difficilement... On comprend pas très bien pourquoi ils veulent montrer ça, finalement.
En fait, dans leur une sorte de naïveté, je crois, qui fait que les officiels birmans, du moins pendant un certain temps, puisque aujourd'hui c'est plus le cas, étaient convaincus que en délivrant leurs paroles, le monde entier allait les croire. En fait, ils souhaitaient simplement, essentiellement, redorer leur blason et ne plus avoir cette image de génocidaire qu'ils ont depuis 2 ans. Et c'est pour ça qu'ils nous convoquaient, et c'est pour ça qu'ils nous disaient des absurdités pendant quelques jours, en nous disant par exemple des dizaines de fois par jour que les vrais responsables de ces violences étaient les terroristes Rohingyas, qu'ils avaient eux-mêmes brûlé leur maison pour s'attirer les faveurs de l'opinion internationale notamment. Donc ça, les Birmans, aussi incroyable que ça puisse paraître, mais à force de le répéter... Enfin, c'est mon sentiment en tout cas, le croient eux-mêmes. En tout cas, il y a beaucoup de gens en Birmanie qui pensent que c'est vrai. Et ils pensent qu'en délivrant cette parole aux journalistes étrangers, on va les croire. Ce n'est plus vraiment le cas, puisque moi, pendant mon press tour, ça ne s'est pas très bien passé. Pour avoir les quelques séquences que vous avez pu voir, je n'ai pas eu le choix. J'ai dû leur fausser compagnie une paire de fois notamment. Et puis, j'ai dû faire du forcing, puisque sinon, je n'aurais rien pu faire, puisque c'était pendant une petite semaine, entre 5, 6, parfois 7 heures de voiture par jour pour quelques minutes de tournage effectif. Donc si je leur avais obéi, en fait, j'aurais pas pu tourner ces séquences. Donc voilà, ça s'est pas très bien passé en ce qui me concerne. Enfin voilà, ils étaient pas très contents de mon attitude. Ils m'ont bien fait sentir et bien fait comprendre. Et puis suite à ça, il y a eu un autre press tour dans lequel il y avait un confrère de Channel 4 qui a eu la même attitude que moi et qui a un peu poussé les limites, qui les a un peu poussés à bout. Et depuis, il y a plus de press tour, en tout cas plus de press tour pour les journalistes occidentaux.
Et très concrètement, ça dure à peu près une semaine. Comment ça se passe? Vous êtes dans un convoi de voitures, vous dormiez, vous étiez très surveillé là où vous dormiez. Enfin...
Alors oui, on est surveillé évidemment en permanence, puisqu'on est entre leurs mains, on dépend d'eux, on est avec eux en permanence, à longueur de journée. Donc oui, on est. Enfin concrètement, ils se débrouillent aussi pour qu'on dorme mal, c'est-à-dire dans des endroits vraiment miteux, qu'on mange mal. Parfois même, la nourriture est tellement... tellement infâme qu'on peut même pas la goûter. C'est la première fois que je voyais ça en Birmanie, un pays où en général on mange bien. Donc voilà, ils essayaient par tous les moyens aussi de maintenir une certaine forme de pression. Et puis ah oui, nouveauté aussi, quand j'ai fait ce press tour, on a été racketté le premier jour, alors que mes camarades qui l'avaient suivi quelques mois auparavant, c'était organisé par le gouvernement, donc il y avait rien à payer. Nous, dès le premier jour, il fallait payer $500. Puisqu'ils se sont dit, enfin les organisateurs locaux, les politiques locaux et les militaires qu'on aperçoit dans le film, qui sont des militaires qui vivent sur place et des policiers qui vivent sur place, se sont dit, mais à force de faire venir des journalistes étrangers, ne soyons pas stupides, profitons-en et faisons-les payer. Voilà, c'était à peu près les conditions. Voilà, donc c'était très très difficile évidemment de travailler, puisque on passait, comme je vous le disais à l'instant, 6 heures par jour en voiture, et puis on n'avait que quelques minutes pour tourner, pour filmer ou pour parler aux gens, ou essayer de parler aux gens.
Et une autre question, dans les camps au Bangladesh, est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment ça s'est passé? Il y a beaucoup de personnages qu'on voit dans le film que tu as filmé à plusieurs reprises. En tout cas, tu as pu suivre un peu l'évolution de ces camps en allant voir régulièrement pendant plusieurs mois les mêmes personnes, des familles de Rohingyas qui sont arrivées au Bangladesh. Donc ça t'a permis de voir un petit peu l'évolution de leur situation et de te rapprocher de certaines personnes, j'imagine.
Oui, effectivement, on aperçoit au début du film un monsieur avec sa famille qui sort d'une barque, qui était présent dans des précédents reportages que j'avais fait pour Arte et que j'ai suivi en fait pendant 2 ans. Bon, il n'est pas vraiment présent dans ce film-ci, mais donc grâce à lui, en documentant son quotidien ces 2 dernières années, j'ai pu aussi constater ce qui se passait dans les camps, dans les premiers mois. Enfin, au départ, c'était pas des camps. Enfin, au départ, il y avait déjà des camps, mais c'était surtout ce n'était que des collines verdoyantes. Très vite, en l'espace de quelques semaines, des centaines de personnes, de milliers de personnes, pardon, s'y sont installées. Donc, par exemple, Nour Mohamed, qu'on aperçoit au début du film, j'étais avec lui donc dans les premiers jours de son arrivée au Bangladesh. Et comme c'est quelqu'un de très intelligent, d'éduqué, il s'est dit dès le départ, mettons-nous un petit peu à l'abri, un petit peu sur le côté. Il a trouvé un petit coin très sympa sur une colline, au sommet d'une colline, où il était seul avec sa famille. Donc je l'ai filmé construisant sa maison les premiers jours. Et puis quelques semaines plus tard, il y avait 30 000 personnes sur cette colline. Voilà, aujourd'hui c'est une ville, comme vous avez pu le voir dans le film, c'est une ville 1 million d'habitants. Donc c'est très impressionnant. Et par ailleurs, j'ai vu aussi l'évolution de la sécurité dans les camps, et notamment la mainmise, malheureusement, de groupes islamistes. Ces groupes islamistes qui sont très présents, notamment un groupe qui s'appelle Efazat et l'Islam, qui est un parti politique très influent au Bangladesh, pays laïque par ailleurs, Ce groupe était très présent dès les premières heures, dès les premiers jours. Ils étaient quasiment les seuls, d'ailleurs, ils étaient quasiment les seuls humanitaires au tout début de la crise, de l'arrivée des réfugiés, à leur tendre la main et notamment à leur donner de la nourriture. Puis ils se sont mis à construire, pour occuper les 500 000 enfants qui sont présents dans ces camps, ils se sont mis à construire des madrassas. Et en l'espace de moins de trois mois en tout cas, ils ont construit 5000 madrassas. Donc voilà, il y a une présence. Enfin, les islamistes sont en embuscade. Malheureusement, on peut pas dire qu'ils sont les seuls à s'intéresser au sort des Rohingyas, mais quasiment. Donc c'est assez inquiétant pour l'avenir. Et puis il y a aussi quelque chose qui m'a frappé ces deux dernières années, c'est que la guérilla, enfin si on peut appeler ça une guérilla. Puisque c'est très, très, très étrange, on ne connaît pas, personne ne les a vus, enfin bon bref, l'ARSA, donc l'armée de défense et pour le salut des Rohingyas, il y a deux ans, je passais mes journées à demander aux gens, mais qui sont-ils ? Qui sont-ils ? Est-ce que vous les connaissez ? Est-ce que vous les avez vus ? Est-ce qu'ils vous ont menacés ? Est-ce qu'ils sont venus chercher les jeunes du village ? Voilà, qu'est-ce qui se passe avec eux ? Et je n'ai trouvé personne pendant des mois et des mois capable de me dire, d'une, qu'ils les avaient vus et de deux, qu'ils les connaissaient. Tous les gens me disaient qu'ils n'en avaient jamais entendu parler avant leur arrivée, enfin avant l'exode massif et leur arrivée au Bangladesh. La dernière fois que j'étais dans les camps de Kutupalong, il y a à peu près moins de six mois, tous les jeunes qui avaient entre 20 et 30 ans non seulement connaissaient l'ARSA, mais me disaient qu'ils les soutenaient. Donc ce qui n'était qu'une chimère il y a deux ans, en tout cas selon moi une chimère il y a deux ans, est en train de prendre forme et d'exister. Donc c'est assez inquiétant pour l'avenir, et malheureusement la situation actuelle, et on peut aussi penser que ça va être le cas dans les mois ou les années qui viennent, malheureusement ce qui va se passer risque de donner raison aux Birmans. Quand il disait, il y a un groupe terroriste chez les Rohingyas, ils sont armés, ils sont dangereux et ils sont noyautés par les islamistes. Si on ne fait rien, si la communauté internationale ne règle pas ce problème, c'est vraiment ce qui risque de se passer dans les années à venir.
Alors c'est le moment où, si certains d'entre vous veulent poser des questions, il faut qu'on vous voie et que vous leviez la main. Vous n'êtes pas obligé, hein, mais à ce moment-là, il y aura des micros qui vont vous être donnés. Donc voilà, n'hésitez pas s'il y en a. Je ne vois pas, hein, mais s'il y a quelqu'un qui lève la main. Je crois. Non, il n'y a personne qui lève la main. S'il y a quelqu'un qui lève la main. Pardon, on ne vous voit pas très bien depuis la scène.
Pas du tout, mais donc c'est très impressionnant. Mais...
Allez-y.
Oui, bonjour. Bravo pour votre film tout d'abord. Je voulais savoir si la Cour pénale internationale s'est déjà saisie du dossier ou s'il y a des fois elle envisage de le faire.
Elle
envisage de le faire.
Oui, absolument. Elle s'est saisie du dossier. Ce sont pour l'instant des informations qui... Pardon. Oui. La Cour pénale internationale s'est saisie du dossier. Il y a des gens qui travaillent à la haie. Il y a des enquêteurs qui bossent, qui font des dossiers, qui relèvent des preuves, qui font des listings, etc. Donc elle travaille très sérieusement. Maintenant, il y a pas peu d'informations, mais pas d'informations, puisqu'ils sont en train de constituer ces dossiers, donc c'est totalement confidentiel. Je me suis rendu à la haie pour le tournage, et malheureusement, je n'ai pas pu rencontrer les juges ou les procureurs qui y travaillent, mais oui, c'est en cours.
Vous avez levé la main, je vous donne la parole dans une seconde, juste pour rebondir sur cette question. La question qui se pose dans ton film, et qui va se poser dans les prochains mois, pour rebondir sur cette question, c'est l'existence ou non d'un génocide, est-ce qu'il s'agit d'un génocide d'un point de vue juridique, d'un nettoyage ethnique, il y a des différences qui existent, enfin, il y a des définitions précises d'un point de vue juridique, est-ce que tu peux nous expliquer où on en est sur ce terrain-là ?
Oui, alors vous l'avez constaté, c'est un petit peu le fil conducteur du film, en tout cas un des axes du film, cette question, est-ce un génocide ? Bien entendu, ce n'est pas à moi, journaliste, d'y répondre. Alors aujourd'hui, de nombreux chercheurs, même on pourrait dire la plupart des chercheurs spécialistes du fait de génocide et du crime d'État sont d'accord pour dire que c'en est un, puisque selon eux, pour qu'un crime d'État soit considéré comme un génocide, il faut qu'il réponde à une certaine classification, à un certain nombre d'étapes. Il y a 5 étapes en tout, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un sociologue argentin qui s'appelle Daniel Feuerstein qui a élaboré cette classification. Ça commence par, on commence par isoler un groupe ethnique minoritaire, Et on finit par effacer les preuves une fois qu'on a annihilé ce peuple. Il se trouve que ce qui s'est passé pour les Rohingyas ces dernières années correspond en tout point à cette classification. Maintenant, pour dire si c'est ou pas un génocide, il faut attendre que la justice internationale passe, et c'est seulement quand les faits ont été jugés que l'on peut dire, d'un point de vue juridique, si c'est ou pas un génocide.
Alors, allez-y,
et,
vous.
Pardon. Et par ailleurs, parce que c'était une partie de ta question, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de débat sur le fait que c'est un nettoyage ethnique. Très rapidement, d'ailleurs je le rappelle au tout début du film, très rapidement dans les jours ou les semaines qui ont suivi l'acte final, l'exode massif de septembre 2017, les Nations Unies ont qualifié ça non seulement de nettoyage ethnique, mais de cas d'école de nettoyage ethnique.
Allez-y, vous vouliez poser une question.
Oui, bonjour. J'aurais voulu rebondir sur une de vos remarques à propos de journalistes chinois et japonais. On commence tout juste en Occident à s'intéresser doucement à la crise des Rohingyas. Comment est-ce que dans les autres pays d'Asie, la chose est perçue ?
Alors, je n'y vis pas et je ne lis ni la presse chinoise ni la presse japonaise, donc je ne vais pas être très précis dans ma réponse. Simplement, les ayant vus travailler, ils sont là simplement pour relayer la parole des officiers birmans, enfin des officiels, birmans. Donc quand un homme politique birman dit à un journaliste chinois ce qui s'est passé, ce sont des terroristes Rohingyas qui ont eux-mêmes brûlé leur village pour s'attirer les faveurs de l'opinion internationale, et notamment des Nations Unies, c'est retranscrit tel quel dans le journal chinois. Et il en est à peu près... à peu de choses près, c'est à peu près la même chose au Japon. Ailleurs en Asie, malheureusement, je ne sais pas. Je sais que la Malaisie, qui est un pays musulman, a un avis très différent, et évidemment ne soutient pas la Birmanie. Pour ce qui concerne les autres pays, je ne peux pas vous répondre.
Monsieur, je vois que vous luttez avec votre micro, mais je suis sûr qu'on va vous en donner un qui marche, et on vous attend pour poser la question, il n'y a pas de problème. Il pleut, de toute façon, on a le temps. Ah, c'est bon.
Ouais. La réaction actuelle armée qui est en train de progresser, comme vous disiez tout à l'heure, elle est armée par qui et comment elle se répand et où elle se répand ? La réaction musulmane.
Ah, de l'Arsa. La réaction de l'Arsa. Alors, ils sont quasiment pas armés. Ce qui s'est passé le 25 août 2017, c'est l'attaque d'une poignée de postes de police par des gamins d'une vingtaine d'années armés de bâtons et de couteaux.
Dans le film, on voit quand même des Kalachnikovs.
Oui, on voit, je ne sais pas compter, mais quelques Kalachnikovs. Ouais.
C'est un spock du photographe que vous avez pris vous-même ou que vous avez recueilli ?
Cette image, non, je le dis dans le film, c'est une image de propagande qui a été faite par justement l'ARSA, mais on n'en sait pas plus.
Et à l'heure actuelle, vous n'en savez pas si elle se répand et comment qu'elle se répand et par qui elle est armée et par qui elle est...
Je vous répète qu'à l'heure actuelle, ils gagnent en influence, ce que j'expliquais tout à l'heure, mais personne ne peut dire, en tout cas moi je ne peux pas dire s'ils sont armés et par qui.
Pardonnez-moi, c'est ça qui ressort de ton film et de ce que tu nous as dit tout à l'heure, c'est que ce mouvement l'Arsa, il est très mystérieux depuis le début, on ne sait pas à quel point il est important, il a surtout été raconté par cet unique clip de propagande et aussi par les autorités birmanes, c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de réponses, enfin, en tout cas Gwen n'en a pas beaucoup sur ce point, ni
oui,
hier ni aujourd'hui.
Absolument, et à la différence de toutes les autres guérillas des minorités ethniques comme les Shan, les Wa, les Karen, les Kachin, etc., qui sont très actives et plus ou moins armées, ou voire très bien armées ou très bien équipées. Sur l'Arsa, personne n'a jamais eu d'information, curieusement. Toutes les autres guérillas sont, alors, je ne vais pas dire facilement accessibles, en fonction des périodes. Moi, j'y suis allé hein, plusieurs fois, j'ai fait plusieurs films, notamment sur les Shan, les Wa. Les Wa sont armés par les Chinois, les Shan sont plutôt armés par les Américains, les Thaï. Voilà, et c'est des choses qu'on peut documenter, on peut les rencontrer, on peut les voir tenir leur territoire. On peut, voilà, l'Arsa, c'est très différent. On ne sait rien.
Au travers de cette information où on sait si elle est bonne ou pas bonne, en tout cas, elle profite à la Birmanie. Parce qu'à une réaction dite génocide, il y a une réaction armée, politique.
Oui, mais qui en...
De vengeance qu'on peut traiter, mais qu'on transforme en guerre de religion.
Pardon ?
Pardon, je parle sans micro. Je te lance. ce que Gwen explique, je crois, dans le film, et tu vas me compléter ce que je dis, c'est que c'est l'argument de l'Arsa, de l'existence de l'Arsa et des attaques de l'Arsa qui a permis à la Birmanie de mener ces massacres il y a 2 ans. Et c'est l'argument de l'existence actuelle de l'Arsa qui permet aux autorités birmanes de continuer à justifier l'élimination des Rohingyas.
Oui, absolument. Oui, pardon, je n'avais pas bien saisi. Mais c'est ça. C'est bien résumé, voilà. Thomas.
Je peux être... Alors, y a, si vous voulez, oui. Bien, juste devant vous, monsieur, il y a quelqu'un qui lève la main, si vous voulez,
oui.
Bien, peut-être.
Moi.
Vous avez déjà un micro. Pardon, c'est hyper bien organisé.
Oui, je voulais simplement faire un commentaire par rapport à ce que vous avez dit sur l'Arsa. Je trouve qu'il y a un parallèle flagrant avec ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, avec l'attaque de la Pologne qui était justifiée par une attaque soi-disant des Polonais sur des postes frontières. Et en fait, c'était des troupes allemandes qui avaient fait réaliser l'opération. Alors, ma question, moi, c'était surtout par rapport au Bangladesh, qui est tout de même un des pays les plus pauvres du monde. Comment est-ce qu'ils arrivent à accueillir 1 million de personnes, ce qui est tout de même énorme, et de quoi vivent ces gens, enfin, comment survivent ces gens
Alors oui, c'est effectivement assez incroyable de constater que, en plus, c'est un des pays la densité démographique les plus fortes de la planète. Il n'y a pas de place, pour faire simple, il n'y a plus de place depuis très longtemps dans ce pays. Les gens vivent les uns sur les autres, donc accueillir 1 million de personnes en quelques mois, ça paraît incroyable. Bon, ils l'ont fait. Ça ne s'est pas fait sans heurts. Et malheureusement, on est peut-être. Ça risque de s'aggraver dans les mois et les années qui viennent, puisque imaginez 1 million de personnes qui débarquent sur un minuscule territoire très pauvre du jour au lendemain, forcément, ça crée des tensions avec les gens qui vivent autour. Parce que ces gens. Reçoivent de l'aide internationale, 1 million de personnes, enfin 700 000 personnes qui arrivent en quelques semaines ou quelques mois, ça fait monter les prix, tous les prix montent, donc les gens des villages d'à côté ne peuvent plus se nourrir. Donc il y a un ressentiment fort des gens, des Bangladais, de la région vis-à-vis des Rohingyas, et c'est quelque chose qu'on est en train de voir monter en particulier depuis 6 mois, 1 an, enfin 6 mois en particulier, la tension devient grandissante. Depuis quelques semaines, les réfugiés Rohingyas ont interdiction absolue de sortir des camps et même de se déplacer d'un camp à l'autre. Ils n'ont plus de téléphone portable en journée. Les lignes téléphoniques sont coupées puisque les Bangladais ont peur de leur présence désormais. La situation est... Je ne sais plus quelle était votre question sur la fin de votre question. Thomas, qui a une excellente mémoire.
Une excellente mémoire, effectivement. Non, comment un pays aussi pauvre peut accueillir autant de gens encore plus pauvres en si peu de temps et sur un tout petit territoire. Je crois que tu as répondu.
Oui. Bon, alors, dans un premier temps, ils ont fermé la frontière. Ça a duré quelques jours. Mais les Bangladais n'ont pas voulu être responsables de la mort de quelques milliers ou dizaines de milliers de personnes supplémentaires. Enfin, donc, ils ont ouvert les vannes assez rapidement. Ils n'ont pas eu le choix.
Alors j'ai cru voir d'autres mains tout à l'heure, mais y a d'autres gens qui veulent. Je vous en prie.
Bonsoir.
Bonsoir.
Pour rebondir un peu sur la question précédente, quelle est la position officielle du Bangladesh vis-à-vis de cette crise-là? Et dans les semaines qui ont suivi l'exode massif, comment le gouvernement a réagi?
Comme je viens de l'expliquer, le gouvernement a réagi en ouvrant les frontières dans un premier temps pour les accueillir. Et puis le gouvernement, très rapidement, le gouvernement de Bangladesh s'est retourné vers les Nations Unies et vers son voisin birman pour lui expliquer que que, enfin, voilà, le gouvernement bangladais accuse de nettoyage ethnique, évidemment, son voisin birman. Et depuis 2 ans, il y a des négociations pour que les Rohingyas puissent rentrer un jour en territoire birman, puisque les Bangladais ne peuvent pas imaginer laisser cette population sur leur territoire. Donc voilà, ils ont réagi par l'accusation, la diplomatie, la main tendue aux organisations internationales.
Bonsoir.
Allez-y.
Merci pour ce témoignage. Est-ce que vous savez quelle est la part de la population birmane qui a participé avec l'armée pour ce génocide?
Alors, la part, c'est-à-dire des chiffres, des stats.
Est-ce que ce sont les populations bouddhistes qui étaient dans les villages Rohingyas, ou est-ce que ce sont d'autres populations qui ont effectivement été sollicitées pour intervenir?
Ce sont leurs voisins, tout simplement. Ceux qui étaient déjà là, ce n'étaient pas des gens qui venaient d'ailleurs. Les gens qui venaient d'ailleurs étaient les soldats et la police militaire qui tient la frontière. La police, oui, une sorte de police militaire aux frontières, on va dire. Comme j'essaye de l'expliquer dans le film, ils se sont très largement appuyés sur les villageois bouddhistes, puisque souvent, puisqu'il faut comprendre aussi, il faut peut-être que je rappelle que dans l'Arakan, dans l'état d'Arakan, il y a des musulmans rohingyas, mais il y a aussi des bouddhistes qu'on appelle les Rakhine, donc il y a 2 minorités. Et donc les forces armées birmanes se sont appuyées sur la minorité bouddhiste, sur les villageois bouddhistes, pour les aider à faire
le travail, leur boulot.
Oui, c'était des gens du coin, c'était les voisins.
Est-ce que vous savez si d'autres musulmans hors Rohingya ont été martyrisés en même temps dans la période?
Alors, comme les Rohingyas, non. Depuis une dizaine d'années à peu près... Oui, pardon. Comme les Rohingyas, je disais donc non, mais depuis une dizaine d'années, on a assisté en Birmanie à l'explosion du nationalisme bouddhiste, et qui va de pair avec, dont la colonne vertébrale est la peur de l'étranger, en l'occurrence la peur du musulman. La majorité des musulmans en Birmanie sont des Rohingyas, mais il y a d'autres communautés qui sont des communautés musulmanes qui ne sont pas Rohingyas et qui souffrent elles aussi depuis 2 ans, pour faire simple, pour illustrer ce propos. Il y a des informations qui sont assez récentes, qui font état de centaines de villages qui affichent fièrement, en Birmanie, partout, hein, pas seulement dans cette région, mais jusque dans le nord du pays, absolument partout, qui affichent fièrement sur des panneaux à l'entrée du village que leur village est interdit aux musulmans, parfois même c'est précisé et aux animaux. Et quand il n'y en a pas de musulmans dans ces villages, dans les villages, ils affichent aussi fièrement village, a Muslim free village, village sans musulmans. Donc oui, les musulmans ailleurs en Birmanie et autres que les Rohingyas souffrent de ce qui se passe malheureusement dans ce pays depuis quelques années.
Allez-y.
Moi j'avais juste une question, ce serait sur est-ce que vous avez eu des retours lors de vos entretiens avec des Rohingyas sur s'il y avait des Birmans bouddhistes qui au contraire les avaient aidés lors de ces temps difficiles, ou est-ce qu'il y avait une solidarité quand même de la part de certains birman bouddhiste?
Oui, alors c'est arrivé. J'ai pas enquêté particulièrement sur cette question, mais oui, comme je veux dire, comme toujours dans le genre de situation, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, et il y a même des bouddhistes, des militaires bouddhistes qui birmans qui ne sont pas d'accord avec les ordres qu'on leur donne. Il y a des gens il y a des informations, les informations qu'on reçoit, un certain nombre des informations que vous avez vues, des faits que vous avez vus dans ce film, viennent d'informateurs militaires birmans.
Bonsoir. J'ai une question par rapport au pouvoir Aung San Suu Kyi, hein, prix Nobel de la paix. Quel est votre point de vue par rapport à cette personne, et que fait la Fondation Nobel par rapport à son prix qui lui a été donné?
Alors mon point de vue personnel, il est pas, je ne sais pas s'il est très intéressant. Si. Bon, y a une phrase qu'elle a prononcée à un ami, un confrère, Nick Dunlop, le grand photographe Nick Dunlop, pour ne pas le citer, il y a une douzaine d'années ou une quinzaine d'années. Elle lui disait je ne veux plus être vue uniquement comme une icône des droits de l'homme, je veux surtout être vue comme ce que je suis, une politicienne. Je crois que ça résume bien la position d'Aung San Suu Kyi dans cette affaire. Voilà, comme c'est dit dans le film, comme on l'explique dans le film, qui a profité de sa stature de prix Nobel de la paix pour couvrir les saloperies, passez-moi l'expression, des généraux birmans. Mais c'était aussi et surtout, à la base, une volonté d'arriver au pouvoir à tout prix. Donc, de ne pas se mettre à dos les généraux et de ne pas se mettre à dos une grande partie de la population birmane qui est convaincue, après des années de propagande, comme on l'a aperçu dans le film aussi, qui est convaincue qu'il y a un véritable péril islamiste en Birmanie. Donc elle n'a jamais rien fait pour aller contre ça. Et puis, il y a quand même un élément important qui est que Aung San Suu Kyi, tout prix Nobel de la paix qu'elle soit, elle l'est encore, c'est surtout la fille du général Aung San, donc le libérateur de la Birmanie, l'homme qui a libéré, qui a bouté hors de Birmanie le colon britannique à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et son père, donc, qui est une figure absolument mythique en Birmanie et qui est l'idole d'Aung San Suu Kyi, elle ne parle que de lui, elle ne pense qu'à travers lui. Son père a été combattu au moment de la Deuxième Guerre d'indépendance, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, par les Rohingyas, qui se sont rangés côté britannique. Et ça, évidemment, elle, personnellement, ne leur a jamais pardonné, et de nombreux Birmans ne leur ont jamais pardonné non plus. Et pour finir sur cette charmante dame, il faut juste se souvenir qu'elle n'a jamais prononcé le mot Rohingya. Elle refuse absolument de prononcer le mot, donc de reconnaître qu'il existe un peuple Rohingya. Pour elle, ils ne sont rien. Elle dit les musulmans d'Arakan, les Bengalis. Enfin, elle ne dit plus les Bengalis parce que ce n'est pas aussi connoté que Métek, mais les Bengalis, bon, ils ont compris hein, qu'il ne fallait plus le dire pour une question d'image. Mais voilà, pour elle, c'est un non-peuple, il n'existe pas, point barre.
Et la position de la Fondation Nobel
Alors, je sais qu'il y a débat. Je n'ai pas suivi les dernières évolutions des débats dans le détail, mais il y a débat sur le fait qu'il faille lui retirer ou pas, ou lui laisser son prix. Il y a des dizaines de prix, puisque pendant des années, c'était la compétition internationale à savoir qui allait nommer Aung San Suu Kyi citoyen d'honneur. Hein, elle est citoyenne d'honneur d'énormément de capitales dans le monde, Paris, Londres, etc. La plupart des grandes universités de par le monde lui ont délivré des diplômes aussi honoris causa. Et des dizaines de ces villes et des dizaines de ces universités lui ont retiré les prix et les distinctions qu'il lui avait données à l'époque. C'est compliqué en fait. Voilà, on l'a porté au nu, c'était une idole, un symbole, et c'est compliqué de reconnaître aujourd'hui que la réalité était vraiment différente.
Alors. Ah.
Bonsoir.
Bonsoir.
Déjà bravo pour le film. Et ensuite, je voulais savoir, est-ce que lorsque le plan était programmé depuis très longtemps, et donc ensuite il y a eu les attentats au commissariat de la police, est-ce que le plan avait une date prévue ou ils ont utilisé le fait qu'il y ait eu un attentat par les ARSA pour activer le plan, où il y avait déjà une date de prévue pour mettre en place ce plan?
Malheureusement, je n'en ai aucune idée. Je n'étais pas présent aux dernières réunions des généraux birmans quand ils ont activé le plan. Non, mais blague à part, franchement, je ne sais pas. Alors, en même temps, on l'attendait. Je ne sais pas. Est-ce que c'était le 25 août? J'en sais rien. Mais on l'attendait puisque on s'attendait à ce qu'il se passe ça au moment où ça s'est passé, fin août 2017, puisqu'il y avait déjà eu une sorte de galop d'essai, si je puis dire, un an avant. Et donc voilà, les gens qui étaient sur place s'attendaient à ce qu'il y ait des mouvements de Larsa et une répression très violente. C'était pas une surprise en fait. Maintenant la date.
Alors, allez-y, allez-y. Pardon, vous êtes sur le côté.
Bonsoir. Savoir quels sont les moyens d'action de la communauté internationale, parce que vous disiez tout à l'heure, si jamais la communauté internationale n'intervient pas, ça va être de plus en plus grave. Voilà, quelles sont les possibilités?
À part la justice, à part la CPI, il n'y en a pas beaucoup. À part faire pression sur la Birmanie, c'est-à-dire ce qu'ont fait la majorité des pays occidentaux, cesser la coopération, notamment tout type de coopération, le business. Alors il faut savoir que la Birmanie envoie quand même des délégués dans les pays européens. J'étais il y a quelques mois à une réunion à Paris où il y avait des représentants de l'État birman qui étaient là pour inciter les Français à faire du business avec eux. L'ambassadeur était présent. Enfin, voilà, il s'est passé la même chose il y a 6 mois à Londres. Donc que faire, à part la justice, je pense qu'il n'y a pas d'issue, et puis cesser la coopération. Malheureusement, la Birmanie a renoué depuis cette crise des liens avec la Chine, et est sous perfusion chinoise désormais.
Il y a aussi peut-être aider le Bangladesh. Est-ce que la communauté internationale peut aider le Bangladesh à mieux accueillir les Rohingyas, par exemple?
Oui, c'est déjà le cas. C'est-à-dire, c'est surtout à base de fonds qui sont versés via les Nations Unies à des ONG locales, puisque ce sont essentiellement des ONG locales qui travaillent désormais dans les camps. Oui, faire pression sur le Bangladesh, peut-être. Aider le Bangladesh, peut-être.
Aider le Bangladesh. Ah. Allez-y.
Comment ont réagi les réfugiés Rohingyas à votre présence, notamment dans les camps au Bangladesh, lors de votre reportage?
Comment j'étais accueilli, en fait?
Oui, voilà.
Globalement, très bien accueilli. Évidemment, on comprend que vu ce qu'ils ont enduré et souffert ces dernières années, ils ont envie de parler et de partager, et ils ont envie que ça se sache. Donc, oui, j'ai toujours été très bien accueilli et je suis toujours tombé sur des gens qui avaient envie de partager avec moi ce qu'ils avaient vécu.
Et à propos de ça, y a-t-il un certain ressentiment contre l'ONU pour une certaine inaction de la part des réfugiés?
Alors, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais alors, en ce moment, il y a notamment y a des paroles qui sortent des camps, si je puis dire. Puisque vous en parlez, contre l'ONU, puisque les Nations Unies sont très très en retard, notamment sur la construction d'écoles, et donc ça commence à grogner dans les camps en disant: mais attendez, vous faites de la com sur notre dos, mais est-ce que vous nous aidez? Vous n'avez même pas construit d'école. Donc ça peut arriver, mais globalement les réfugiés Rohingyas qui sont dans ces camps remercient, enfin tout ce qu'ils disent c'est merci, puisqu'ils sont bien conscients que sans les Nations Unies, alors je ne suis pas là pour faire la com des Nations Unies, hein, loin de là, mais sans les Nations Unies, leur situation serait bien pire.
Oui. Allez-y, je ne sais pas où vous êtes, mais allez-y. Ah,
oui,
pardon,
oui.
Excusez-moi.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Votre film montre bien l'action du moine bouddhiste. Est-ce que c'est un cas qui est vraiment isolé au sein de la Birmanie, ou bien est-ce qu'il a fait des émules, et est-ce qu'il y a des réactions de bouddhistes en Birmanie ou dans d'autres pays? Je n'irai pas jusqu'à parler du Dalai Lama.
Alors non, ce n'est pas un cas isolé. C'est ce que j'espérais, en fait, pour être totalement franc avec vous, quand je l'ai rencontré il y a 4-5 ans maintenant. J'ai moi-même été totalement dépassé et surpris par l'ampleur de son mouvement, de son parti politique. Moi, je l'ai suivi en campagne, hein, il allait dans des villages, il y avait 1000 personnes dans le village, il y avait 950 personnes à son meeting. On ne peut pas dire non plus que la Birmanie, dans son ensemble, est devenue totalement raciste et a rejoint les thèses nationalistes de ce moine, mais il y a une vraie base.
Oui.
Pardon, est-ce que d'autres bouddhistes ont réagi contre lui? C'est ce que vous disiez?
Oui, exactement. Et peut-être même une position du Dalai Lama.
Alors, oui, le Dalai Lama s'est prononcé, mais le Dalai Lama n'a pas, n'est pas... Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste du bouddhisme, mais je peux vous dire que ce n'est pas la même obédience. Donc, il n'y a pas d'influence du Dalai Lama sur le bouddhisme birman. Et par ailleurs, en Birmanie, les grands responsables religieux bouddhistes sont des gens qui sont nommés par les militaires. Donc ce sont des moines qui sont cul et chemise avec les militaires. Ils ont énormément de pouvoir. Par ailleurs, les moines en général en Birmanie ont énormément de pouvoir. Enfin, ils sont très présents dans la vie quotidienne. Donc vous ne pouvez pas les critiquer. Donc il y a eu, s'il y a eu quelques critiques, j'en ai même pas à l'esprit, enfin des critiques publiques. Je n'ai pas souvenir qu'il y en ait eu, non. Il y en a certainement eu, mais elles ont été vraiment extrêmement minoritaires.
Donc les militaires ont parfaitement su bien organiser leur coup.
Oui, c'était très joliment monté, oui, absolument. Puisqu'il faut aussi rappeler que les militaires, bon, c'est dit dans le film, mais j'espère que c'était suffisamment clair, les militaires ces dernières années ont vu leur pouvoir s'effriter. Le pays s'est petit à petit ouvert après 50 ans, plus de 50 ans à vivre totalement fermé, en vase clos. Et les militaires ont bien vu, depuis une dizaine d'années grosso modo, que le pouvoir leur échappait. Et à terme, qu'ils risquaient de le perdre totalement. C'est une des raisons, en tout cas c'est la thèse du film que vous venez de voir, c'est une des raisons pour laquelle ils ont alimenté ce nationalisme bouddhiste et qu'ils ont créé un ennemi de l'intérieur, de manière très classique, on l'a vu à maintes reprises dans l'histoire. Ils ont créé un ennemi intérieur pour sortir grandi de toute cette affaire, pour être les héros, à nouveau les héros, puisque les Birmans à la base, ils les détestent, ça fait 50 ans qu'ils les détestent. Mais curieusement, ils les ont soutenus puisqu'ils ont cru à ils ont cru au fait qu'il y avait un danger, un péril islamiste. Et au final, les militaires qui étaient sur le point de perdre le pouvoir l'ont totalement conservé. Donc c'était très joliment joué.
Hein ? Bonsoir.
Allez-y. Bonsoir.
Bonsoir. Oui, vous avez dit que le Japon soutenait le pouvoir birman. Je voudrais savoir pourquoi. Et vous avez dit aussi que la Chine soutenait aussi le pouvoir. Je voudrais savoir pourquoi. Et vous, dernière question, vous avez dit aussi que la Chine soutenait une minorité. Et c'est un peu bizarre qu'ils soutiennent le pouvoir et une autre minorité.
Effectivement. Alors, ça fait plein de questions. Je ne sais pas combien d'heures on a, mais c'est complexe. Le Japon est un des principaux financeurs du régime birman aujourd'hui. Donc ils se sont rapprochés de la Birmanie et ils les soutiennent. Quand je disais tout à l'heure qu'à la fin de la... Alors c'est, ça n'explique pas tout, mais ça explique en partie, ça répond en partie à votre question. Quand je disais tout à l'heure qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Rohingyas ont soutenu les Britanniques, les colons britanniques, contre le général Aung San qui se battait pour l'indépendance de la Birmanie, le général Aung San, de son côté, lui, était soutenu par les Japonais, donc par les forces de l'Axe pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a cet héritage, donc ça a joué, et ça joue encore aujourd'hui. Et puis par ailleurs, je ne crois pas que le Japon aujourd'hui, alors je ne suis pas du tout spécialiste du Japon, j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais je ne crois pas dire de bêtises en disant que ce n'est pas un pays, c'est un pays aussi où le nationalisme a le vent en poupe. Voilà, donc il y a des communions d'intérêts, en tout cas des communions d'intérêts idéologiques. Vous parliez de la Chine, oui, alors la Chine soutient une guérilla depuis très longtemps qui s'appelle les Hua, dont le chef s'appelle Bao Jungyang, qui est un des principaux, c'est un des plus gros narcotrafiquants au monde, pour faire simple. Et en fait, la guérilla Hua, elle est située au nord du Triangle d'Or, sur la frontière chinoise, donc complètement de l'autre côté du pays. Là, on passe complètement à l'est. Et la guérilla Hua est à la fois armée et soutenue par les Chinois et par le régime birman, puisqu'elle arrange tout le monde. Elle fait du business, du gros business, d'armes et de précurseurs chimiques pour fabriquer des méthamphétamines en particulier. Et donc tout le monde y retrouve son compte, à la fois les Chinois et à la fois les militaires birmans. Juste une petite anecdote, quand je m'y suis rendu il y a quelques années, ça date un petit peu. J'ai découvert, enfin je savais que ça existait, hein, je ne suis pas tombé dessus par hasard, j'y allais pour ça. Au détour d'un col, très loin au nord du Triangle d'Or, après deux ou trois jours de voiture, enfin sur des chemins, deux ou trois jours de chemin, une ville sortie de nulle part, un Las Vegas un Las Vegas, enfin oui, c'est Las Vegas en plein triangle d'or, avec des dizaines de casinos. J'espère qu'on va survivre. Pourquoi je disais ça, je ne sais plus.
Sur la position de la Chine.
Oui, la position. Oui, pardon. Donc cette ville de, je ne sais pas si vous m'entendez, cette ville de trafiquants, cette ville casino, était une ville chinoise en territoire birman. On était en Birmanie. On est en Birmanie quand on est dans cette ville. Mais à l'époque, et je ne vais pas vous dire ce qu'il en est aujourd'hui, parce que ça fait longtemps que je n'y suis pas retourné, c'est la police chinoise qui patrouillait. Et les clients des casinos, les clients des prostituées, il y avait même des prostituées essentiellement birmanes et chinoises, mais il y a même des prostituées russes. Les clients des casinos et des bouges dans cette ville étaient essentiellement que des Chinois, et beaucoup d'officiels, et beaucoup de militaires, et beaucoup de policiers chinois. On s'est un peu éloigné du sujet, pardon. La fameuse parenthèse.
Les fameuses parenthèses, oui. On s'était dit de ne pas faire trop de parenthèses, mais il y a beaucoup de questions.
Je voulais vous demander comment était organisée historiquement cette communauté quand ils vivaient en Birmanie avant les événements, et est-ce que cette structure peut réémerger maintenant qu'ils sont immigrés, est-ce qu'il y aurait une organisation, une OLP ou quelque chose genre là qui peut sortir un petit peu pour
Pardon, mais c'est le son, j'ai pas très bien entendu la fin de votre question. Comment ils sont organisés, c'est-à-dire par village, les Rohingyas, c'est ça?
Oui, ça, politiquement et socialement, quand ils étaient en Birmanie, comment ils étaient organisés, et est-ce que ça peut réémerger?
Alors, ça c'est vraiment de la politique locale. Il y a eu par le passé, il y a quelques années, quand ils avaient un peu plus de pouvoir, des Rohingyas qui faisaient de la politique, qui défendaient les intérêts des Rohingyas, ou d'autres qui défendaient les intérêts, par exemple, de la Ligue nationale pour la démocratie d'Aung San Suu Kyi, ou d'autres, voilà. Donc, ils étaient organisés, tant qu'ils étaient reconnus comme des citoyens à part entière, tant qu'ils avaient le droit de vote, le droit de se déplacer, le droit d'étudier, ils étaient organisés comme partout ailleurs en Birmanie, c'est-à-dire que il y avait des villages avec des chefs de village, des administrateurs, un préfet, des partis politiques locaux qui défendent les droits locaux, des partis politiques locaux qui sont des relais de partis politiques centraux. Voilà. Et est-ce que ça peut réémerger, c'est-à-dire est-ce que s'ils retournent en Birmanie, ils pourraient
s'organiser aujourd'hui, est-ce qu'ils peuvent s'organiser au Bangladesh, quoi?
Alors, au Bangladesh, comme souvent, hein, c'est pas propre aux Rohingyas ou à l'Asie du Sud-Est, mais ils sont organisés par village. Donc, il y a des sortes de districts dans les camps où le chef de village est devenu le chef de district.
Il va falloir qu'on arrête bientôt, donc on peut prendre encore une ou deux questions si vous voulez bien. Après, pour ceux qui ont peur de la pluie, on peut peut-être installer des matelas ou des réchauds. Ça a l'air un peu difficile de sortir, mais il va falloir qu'on arrête bientôt cette discussion. Donc, on a encore une ou deux questions si vous voulez bien. Allez-y.
Je ne sais pas si vous avez suivi ce qui s'est passé au Cachemire. Est-ce qu'on peut faire le parallèle par rapport aux musulmans qui se font pareil? Je ne sais pas si on peut reparler de la prédimination par rapport au premier ministre extrémiste hindou, mais ces fameux musulmans qui sont au Cachemire n'auront plus leur nationalité et devront sûrement repartir au Bangladesh.
Malheureusement, je ne connais pas le Cachemire. J'aimerais beaucoup. Comme vous le savez, c'est très compliqué d'y aller. D'ailleurs, il y a un film, je crois, qui est en compétition, qui est magnifique, que je vous recommande, le film de Clément Gargouillot sur le Cachemire, qui est vraiment rare, un film rare, pour cette raison. Donc, je ne peux pas vous répondre. Je suis désolé.
On va prendre une toute dernière question, si quelqu'un veut la poser. Allez-y, je vous en prie.
Bonsoir. Savez-vous si l'ONU avance dans le fait de qualifier ces massacres en génocide pour qu'enfin les choses puissent bouger? On ne peut pas sciemment laisser massacrer des populations comme ça.
Alors, les Nations Unies ne diront jamais publiquement que c'est un génocide, ne l'affirmeront pas comme ça, tant que la justice, comme j'expliquais tout à l'heure, tant que la justice internationale ne sera pas passée. Cela dit, régulièrement depuis 2 ans, il y a des annonces qui sont faites. Et le vocabulaire, comme toujours chez les diplomates, est toujours très, très bien choisi. Donc on parle d'éléments de génocide, on parle de faits de génocide indéniables, etc. Et il y a une progression. Enfin, moi, en tout cas, dans les rapports que je lis depuis deux ans, que vous pouvez lire, enfin, qui sont relayés dans la presse, il y a une vraie progression sur cette question-là. Mais ils ne diront, j'espère ne pas me tromper, mais a priori, je ne pense pas me tromper, je pense qu'ils ne diront jamais c'est un génocide avant que ce soit jugé, avant que les faits ne soient jugés.
Et d'après vous, ce serait jugé quand? Parce qu'il y a quand même urgence.
Je n'en ai aucune idée, désolé.
Il faudrait qu'ils se bougent un peu, quoi.
Il faudra leur dire.
Il faut qu'on arrête là cette soirée. Avant de partir, deux, trois choses. On vous remercie beaucoup d'être venu. C'est une soirée pluvieuse et on est en pleine semaine. Et je pense que ça nous fait très plaisir qu'il y ait autant de monde et autant de questions intelligentes. Et le film sera diffusé sur Arte le 22 octobre. Donc, si vous voulez le revoir une deuxième fois ou juste en parler autour de vous. Et on remercie beaucoup le Prix Bayeux, le festival, d'avoir diffusé ce film devant vous ce soir. Si vous voulez continuer à papoter avec Gwen, je pense qu'on va rester dans le coin. De toute façon, il pleut, donc ça
sera... On est allergique à la pluie, donc on va rester là.
Merci beaucoup de votre présence à tous. Merci beaucoup.
Merci. Bravo, beaucoup. Gwen.